at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une Heure et des Pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris, et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. C'est la fin de l'année, une année 2021 particulière et mouvementée. Et ce mois-ci, on a donc réuni toute la fine équipe des chroniqueurs d'Une Heure et des Pixels pour essayer d'en faire le bilan. En commençant par Jean. Bonsoir Jean.
Salut H, ça va ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, pas mal. Impatient d'écouter les chroniques de chacune et chacun.
On accueille aussi Lys. Bonsoir Lys.
Bonsoir H.
Comment tu vas ce soir ?
Ça va bien aussi.
On a notre spécialiste et même enseignante du game design, Thaïs. Bonsoir Thaïs.
Bonjour tout le monde, bonjour H.
Pas trop sous l'eau avec les fêtes de Noël, ça va ?
C'est toujours dur le mois de décembre et puis l'inconvénient c'est que c'est le mois dans lequel les vacances sont les moins reposantes de toute l'année. Mais on va s'en sortir.
On a aussi l'une des voix que les habitués de l'émission connaîtront depuis longtemps, Alex. Bonsoir Alex.
Hello.
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va. Voilà, comme disait Thaïs, mois de décembre, fatigue, mais bon, vacances, donc ça va.
Et enfin, Cindy n'a pas pu être là pour l'enregistrement de l'émission, mais grâce à la magie du montage, on rajoutera sa news et son jeu de l'année avant la diffusion, et on lui souhaite beaucoup de repos. Et enfin, je suis H, et je serai votre hôte pour ce soir. Au programme de l'émission, on a tous choisi une news sur laquelle on souhaitait revenir. On va ensuite vous parler tour à tour du jeu qui nous a le plus marqué cette année. Pour finir sur le blind test, et cette fois-ci c'est Jean qui s'y colle. Qu'est-ce que t'as choisi comme thème cette fois Jean ?
Alors comme on l'avait dit en fin d'émission dernière, j'ai pris le test des enfers dans le jeu vidéo, et j'y ai aussi accolé la thématique du diable, parce que je me dis que souvent l'un va avec l'autre et ça me permettait de brasser un petit peu plus large, donc voilà. J'ai hâte de vous faire écouter ma sélection.
On a hâte aussi. Mais on va commencer tout de suite par nos news de l'année. Et je me tourne vers Lys. Lys, quelle news a retenu ton attention cette année ?
Alors moi, ce qui m'a interpellé, c'est le gros gagnant des Game Awards. Les Game Awards, c'est une cérémonie annuelle pour remettre des prix aux meilleurs jeux vidéo de l'année. Et cette année, l'heureux élu du titre jeu de l'année n'est autre que It Takes Two, édité par Electronic Arts et développé par Hazelight Studios, qui est notamment connu pour A Way Out, sorti en 2017. C'est un jeu de plateforme aventure où l'on incarne un couple au bord du divorce qui doit s'entraider pour reprendre une apparence humaine. Pour rappel, le jeu était en compétition avec Deathloop, Metroid Dread, Psychonauts 2, le dernier Ratchet & Clank et Resident Evil Village. Cette nomination a fait quelques émules car le jeu s'inscrit presque en porte-à-faux des autres nominés, c'est un jeu jouable exclusivement en coopération. Le streamer Atomium y voit un message fort en soulignant que la plupart des trailers de cette cérémonie étaient des jeux de tir, ce qui n'est pas le cas de It Takes Two. Il faut enfin noter que c'est le seul jeu avec Deathloop à ne pas s'inscrire dans la continuité d'une licence. Certaines personnes y voient un choix par défaut car 2021 n'aurait pas été une année très friande en jeu. Alors il va sans dire que l'écriture de It Takes Two n'est pas spécialement son point fort, c'est une trame scénaristique digne d'un téléfilm de Noël avec le même type de fin très mièvre. Son propos est très lisse car la relation hétérosexuelle, la parentalité et le divorce sont au final très peu questionnés. Mais tout le monde s'accorde à saluer la direction artistique du jeu et surtout l'intérêt ludique qu'il porte. La coop est bien entendu essentielle ici, le jeu alterne différentes phases de gameplay, se renouvelle sans cesse, riche, plein de surprises, It Takes Two est d'une immense générosité. On peut dès lors se réjouir de voir un tel titre récompensé. Cependant, je ne peux m'empêcher de trouver une certaine hypocrisie à ce genre de cérémonie. Les jeux indépendants sont certes de plus en plus mis en avant, mais ils demeurent encore une catégorie à part, qu'on distingue, avec le meilleur jeu indépendant ou le meilleur premier jeu indépendant. Aucun d'entre eux n'est choisi pour la catégorie meilleur jeu de l'année. De son côté, It Takes Two a été très largement supporté par Electronic Arts, et c'est d'ailleurs ce qui a permis que le jeu soit visuellement très réussi. Cet événement me semble d'autant plus hypocrite quand on y annonce que le développement du nouveau titre d'une licence aussi faramineuse que Star Wars est confié à un studio connu pour son harcèlement sexuel, son racisme et son homophobie envers ses employés, et qui a été condamné devant les prud'hommes. Comment doit-on interpréter ce choix ? Comment continuer à croire que les jeux vidéo puissent changer le monde ? Je ne vous apprends rien en vous disant que le jeu vidéo reste une industrie largement dominée par un conglomérat d'hommes de pouvoir qui ne sont là, ni pour respecter leurs salariés, ni les joueuses, mais bien pour faire de l'argent. Les nouveaux combats féministes, LGBTQI+, et antiracistes, ils se les réapproprient à la sauce libérale pour faire leur profit dessus et perpétue un système injuste et discriminant. Moi, j'ai l'impression que ce sont surtout eux les grands gagnants des Game Awards.
Eh bien, merci beaucoup pour ta chronique, Lys. Est-ce que certains veulent réagir? Que ce soit parce que vous ayez joué avec It Takes Two ou à tout le reste de la chronique, et notamment sur Quantic Dream et l'industrie.
Je vais réagir uniquement sur la première partie pour commencer, sur celle qui concerne plus spécifiquement It Takes Two, puisque du coup, en plus, je l'ai fait avec Lys, et c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment dessus. C'est un jeu qui est plein de trouvailles. Enfin, en fait, en soi, il n'y a rien de drastiquement original, mais tout y est en fait. Et à chaque nouveau chapitre, à chaque nouvelle section de jeu, on se disait « Oh là là, ils ont fait ça, c'est super chouette et tout ». Et tout est bien pensé, le gameplay asymétrique fonctionne très très bien. C'est très drôle, c'est très joli. En effet, on soupirait un peu fort quand il y avait les passages cinématiques et tout le scénario qui se déployait, parce que c'est extrêmement cliché et pas très intéressant. Mais il est très très fun à faire à deux, et je pense que c'est une récompense entre guillemets méritée. Mais bon, encore une fois, ça fait un petit bout de temps aussi, comme l'a dit Lys, que les Game Awards c'est un peu vide de sens. Mais bon, c'est, disons que si jamais ça peut faire rager quelques journalistes hardcore gamers parce que ça n'a pas été un gros jeu type Breath of the Wild ou The Last of Us, bon bah ça me fait toujours plaisir qu'il ait été nominé, quoi.
Ouais, effectivement. Pour le coup, c'est assez intéressant, je trouve, le fait que It Takes Two ait été récompensé à cette cérémonie. Mais personnellement, j'ai l'impression que c'est pas tant pour ce que ça dit de la place du jeu vidéo indépendant, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à considérer It Takes Two comme un jeu indépendant, en fait, à la fois en termes de force de production et du poids de EA dans le développement du jeu et dans les moyens qui sont mis à leur disposition. Même en fait, quand on le voit, il ressemble pas du tout à l'imaginaire de ce qu'on peut avoir d'un jeu indépendant, même si concrètement ça veut rien dire. Mais je veux dire, quand on le voit, ça sniffe convenablement le triple A quand même. Au moins le double A, le triple I, mais en fait tout ça veut rien dire. Ça sent la grosse prod. En revanche, là où je trouve que c'est assez significatif, effectivement, le fait de récompenser It Takes Two, c'est plutôt effectivement sur récompenser un jeu coopératif, déjà, récompenser un jeu qui s'éloigne, en tout cas, disons, de la tradition des shooters et de ce genre de choses. Et surtout, ça paraît con, mais qui n'est pas un jeu Nintendo. Parce qu'en fait, quand ça se produit, jusqu'à maintenant, c'était que des jeux Nintendo. Et là, du coup, il y a une espèce de, comment dire, une espèce de tendance, disons, qu'on peut identifier et qui est à peut-être aller vers d'autres types de mécaniques, d'autres types d'imaginaires aussi. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt là-dessus que le fait de récompenser It Takes Two fait du sens, à mon avis.
Alex, tu voulais aussi réagir ?
Ouais, alors déjà je suis complètement d'accord avec ce que Thaïs vient de dire, et ensuite ouais, deux petites choses. Premièrement, c'est vrai qu'il y a effectivement, j'ai vu passer aussi pas mal de gens dire que bah oui, Takes Two a gagné le prix de jeu de l'année, mais c'est parce que cette année on n'a rien eu en jeu, déjà, enfin, moi ça me désole d'entendre ça, quoi, et d'autant plus venant de la part de journalistes. Je sais pas trop si je peux dire prétendus journalistes, mais qui sont censés avoir une vision globale de l'industrie du jeu vidéo, et quand même que se rendre compte que cette année, enfin, on a eu plein de jeux incroyables, quoi. Voilà, et si j'ai bien compris, c'est toutes vos news, puisque moi malheureusement j'en ai pas, mais beaucoup vont être placés sous le signe du sel. Je pense que je peux ouvrir la porte et dire à ces gens-là d'aller sincèrement se faire cuire le cul, ou de juste prendre une manette, en fait, et jouer aux jeux vidéo plutôt que d'essayer de commenter des trucs en disant des énormités pareilles. Et ensuite, non, It Takes Two, c'était vachement bien. Voilà, j'ai pas fini, j'ai joué juste un tout petit peu avec ma copine, et c'était vraiment super bien. Enfin, ok, le scénario est basique et même assez cringe. Quand même de temps en temps, mais je sais pas, c'est super plaisant à jouer, c'est agréable, c'est un jeu qui mérite totalement tout ce qu'il a gagné, quoi. Voilà, C'était juste pour ajouter un peu de sel sur tout ça.
Eh ben, tout le sel est pris pour cette émission. Et c'est probablement que le début. mais on va passer tout de suite à une chronique qui sera sûrement tout aussi salée. C'est celle de Cindy, qui nous rejoint par la magie du montage, à propos d'Activision Blizzard.
Bonjour à toutes et à tous. Merci H pour l'intro, merci la magie du montage, et merci à mes sponsors, les Marais Salons de Guérande. 2021 était une année très riche en bad buzz. Toujours plus surprenants les uns que les autres, pour ne pas citer les NFT d'Ubisoft. Mais pour moi, s'il y en a bien un qui a réussi à s'asseoir sur le trône de la shame, c'est Activision. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Flashback été 2021, nous sommes le 20 juillet. Une plainte pour harcèlement sexuel permanent et discrimination est déposée par un département de l'État de Californie contre Activision. Rien que ça. On y accuse l'éditeur d'avoir laissé s'installer une culture du harcèlement au détriment des femmes qui composent, rappelons-le, que 20% des effectifs. On référence ainsi plus de 500 plaintes de salariés qui évoquent des situations d'inégalité de salaire, de harcèlement moral ou d'agression sexuelle. Mais bon, hein, jusque-là, ça va. Parce qu'on n'en entend pas parler. Puis, la réponse à cette plainte est dévoilée, et là, c'est la révolte. Le 28 juillet, un rassemblement est organisé pour protester contre la direction d'Activision. C'est la folie. Entre 200 et 350 personnes sont rassemblées dans les rues, arborant des t-shirts aux couleurs arc-en-ciel, portant des pancartes où il est écrit sobrement « Les voix des femmes comptent ». Contrairement à la France, les syndicats américains dans l'industrie vidéoludique sont quasiment absents. Et ça, c'est la preuve que cette situation est grave. Les réseaux sociaux se soulèvent aussi, relaient un hashtag et boycottent les jeux du studio. Ce soulèvement majeur provoque des changements. Des mesures pour lutter contre le harcèlement et les discriminations sont prises au sein d'Activision. À ce moment-là, nous, on souffle un peu sur nos sièges, et on se dit que, peut-être, il existe une justice quelque part. Mais ça, c'était sans compter sur les révélations de novembre 2021, qui nous annonçaient dans une enquête du Wall Street Journal que Bobby Kotick, donc PDG d'Activision, avait connaissance depuis des années, donc quasiment 5-6 ans, des rapports internes sur les comportements abusifs, y compris les accusations de viol. Mais encore, qu'il avait décidé de ne rien dire. Alors aujourd'hui, on demande sa démission. Est-ce que ça résoudra le conflit ? Est-ce que ça permettra plus d'égalité ? Moi, je l'ignore. Néanmoins, je suis fier de pouvoir dire que les employés de Blizzard ne se sont pas laissés faire, qu'ils se sont unis, ils sont montés au créneau pour se battre et ils ont fait valoir leurs droits. 300, ce n'était pas assez sur les 10 000 employés qui y travaillent, mais 300, c'est déjà un début, et pour ça, il est crucial de continuer à s'entraider et de dénoncer les inégalités. Ce sera tout pour ma chronique. Merci à vous.
Merci Cindy, à 2 semaines d'écart du coup. Et on enchaîne maintenant avec la chronique de Thaïs, qui, il me semble, reste dans le thème du sel.
Tout à fait, ça va rester dans le thème du sel, je suis désolée. J'ai eu un mal fou à trouver quel sujet aborder. Les nouvelles du monde vidéoludique me mettent, on ne va pas se le cacher, assez rarement en joie. J'ai tenté d'aller chercher l'inspiration dans l'excellent travail de recensement des controverses vidéoludiques de 2021 d'Esteban Green, intitulé « Is 2021 over yet ?» en hommage au « Is 2020 over yet ?» de Rami Ismail et disponible sur son blog Les Chroniques Vidéoludiques. La seule conséquence que ça a eu, ça a été de me rendre compte à quel point cette année a été longue. Vous vous souvenez d'Antoine Griezmann, ambassadeur de Yu-Gi-Oh, qui quitte Konami après des sorties racistes, c'était cette année. Vous vous souvenez de l'histoire des tueries scolaires reconstituées dans Roblox, c'était cette année. Les collusions entre la chaîne de stream et l'armée de terre, c'était cette année encore. Six Day in Fallujah, cette année. Bon sang, l'affaire de GameStop à Wall Street, c'était cette année. De quoi on est censé parler quand autour de nous l'industrie ressemble à ça ? Je pourrais faire semblant d'être quelqu'un d'important et vous raconter tous les trucs cools que moi j'ai fait cette année et présenter tout ça comme des game-changing news pour le jeu vidéo. Tenez par exemple, j'ai commencé une chronique dans un podcast. Impressionnant, non ? J'ai parlé des fabuleux points d'enregistrement, au moins un truc de fabuleux dans le jeu vidéo. La vérité, c'est que j'ai l'impression, au jour le jour, de pisser dans un violon. Mais comme s'hydrater c'est important, surtout en ce moment, parce que le froid dessèche beaucoup la peau, prenez soin de vous les jeunes. Comme s'hydrater c'est important donc, je risque de continuer à pisser longtemps dans ce fichu violon. J'espère que vous me passerez la métaphore filée. À ma décharge, je suis retombée il y a peu sur ce terme forgé par Umberto Eco pour le dictionnaire de pataphysique, la lutomiction, l'art de pisser dans un violon donc. Et je vous jure que j'étais à deux doigts de le rajouter dans la catégorie hobby de mon CV. J'aime bien ce mot de lutomiction. Parce que j'aime bien l'idée d'avoir un mot un peu stylé comme ça pour désigner le fait de s'agiter d'une façon en apparence inutile, mais de s'agiter quand même. La lutomiction, c'est même encore plus stylé quand c'est un sport collectif. Peut-être que pour certaines personnes, la syndicalisation chez Vodéo relève de la lutomiction. Peut-être que pour les mêmes, ou pour d'autres, A Better ABK et A Better Ubisoft, c'est de la lutomiction aussi. Peut-être encore que les joueuses qui se mobilisent pour faire reculer les studios qui veulent intégrer pour zéro raison des NFT dans leur production, c'est encore de la lutomiction. Peut-être aussi et sans doute que cette métaphore a duré trop longtemps et que je vais être obligée de reconnaître publiquement que je préfère aujourd'hui passer 2 minutes à parler d'urine plutôt que de jeux vidéo. En tout cas, quand on en aura fini avec 2021, et que Esteban, ou quelqu'un qui reprendra le flambeau derrière lui, commencera à poser la question « Is 2022 over yet ?», peut-être que la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est que le recensement comptera un moment où le violon sera plein et où ça débordera de tous les changements qu'on aura fait ensemble. Je crois que c'est la limite de la métaphore, donc je vais en rester là. En revanche, ça ferait sans doute un super pitch de party game, donc si vous êtes en manque d'inspi, je vous l'offre, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup Thaïs. Est-ce que quelqu'un était motivé par le party game de pisser dans un violon? Ou est-ce que quelqu'un veut réagir plus généralement à la chronique?
Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec une petite musique un peu à la Katemari Damashi. Voilà, c'est tout.
C'est bon, j'achète. Je suis désolée d'avoir créé cet incroyable blanc.
J'avais complètement oublié le truc de le stream et l'armée de terre. Fin... Et effectivement, pour moi, c'est comme si c'était l'année dernière. Donc voilà.
Ah bah c'est le truc de... Vraiment le truc de GameStop, ça m'a fait phaser, quoi. Je me suis dit, waouh, mais on m'aurait demandé, j'aurais dit que c'était il y a 2 ans, en fait. Tellement ça me paraît loin.
Lise, tu voulais réagir aussi?
Oui, juste pour... Je partage vraiment cette sensation d'une année très longue. Et comme tu disais là juste avant, c'est vrai que GameStop, j'avais l'impression que c'était encore l'année d'avant. Donc on a vraiment cumulé, j'ai l'impression, en 2021, pas mal de news assez peu réjouissantes.
Je pense qu'on pourra mettre en lien sur la page du podcast pour les personnes qui connaissent pas le travail de recensement qu'a fait Esteban. Mais effectivement, je vous jure, quand on scrolle à travers ça, mais c'est terrifiant. Ça, en fait, c'est classé par mois et par jour. Et je vous jure, mais la densité, elle est pas croyable, quoi. C'est pas croyable.
Après, il y a des choses que je trouve assez... pas rigolotes, mais rien n'est classé en termes d'ampleur de nouvelles, disons.
Ouais.
Donc il y a des trucs aussi catastrophiques que le stream, GameStop, etc. Et puis à un moment, je suis tombé parce que j'ai scrollé dessus et c'est un peu déprimant, c'est vrai, mais je crois que c'était en mois d'octobre dernier, ou un truc comme ça. Genre, les graphismes de la N64 sont dégueulasses sur Switch, genre point. Et parce qu'il y a dû avoir un portage de je sais pas quoi et tout. Et là, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit rire parce que du coup, ça, au milieu de tout le reste, j'ai fait... Ouais, c'est drôle, ça m'a détendu. Donc je sais pas quels étaient ces critères d'intégration des nouvelles dans son recensement. Ça serait intéressant de lui demander, mais je me demande s'il a pas fait un petit peu exprès de mettre aussi ces choses un petit peu plus légères, entre guillemets.
Le travail qu'il a fait, il le fait en gros, il considère qu'à partir du moment où... il y a débat, c'est une controverse. Et du coup, elles sont toutes... Et effectivement, ça montre à quel point il y a des choses qui sont véritablement des drames humains et sociaux et des choses qui sont vraiment juste des takes de gamers claqués. Mais en fait, tout fait controverse dans le jeu vidéo. C'est ça qui est assez spectaculaire, en fait. C'est à quel point des trucs complètement insignifiants peuvent prendre des places gigantesques dans ce dont on parle et des choses extrêmement graves peuvent au contraire tendre à se minimiser, alors qu'elles arrivent, avec un systématisme délirant, quoi. Mais ouais, en vrai, c'est intéressant, justement, de revenir sur c'est quoi une controverse dans le jeu vidéo, en fait. C'est quoi... il y a eu une démo d'Elden Ring cette année, donc on a eu droit à l'éternel débat sur c'est quoi la difficulté, c'est quoi... les modes faciles, bref. Et en fait, juste à chaque fois, la controverse, c'est la forme basique du discours sur le jeu vidéo, en fait. Sa forme la plus élémentaire.
Réjouissant, donc.
Après, à quel point est-ce que c'est influencé aussi par, bêtement, Twitter, la façon dont beaucoup les magazines fonctionnent aujourd'hui, typiquement Kotaku, qui, je trouve que ça marche très bien, mais qui fonctionne beaucoup par des headlines très très agressives et très très catchy, et qui vont beaucoup faire fermenter ça, sans que ce soit forcément une mauvaise chose, mais...
Ouais, de toute façon, ça vient... Enfin, je veux dire, ça s'inscrit dans tout un système médiatique, parce qu'en vrai, il n'y a pas que dans le jeu vidéo, en fait, que c'est... Enfin, que c'est sous la forme de la controverse que les choses se manifestent. Enfin, c'est hyper vendeur, parce que du coup, c'est ça... Enfin, forcément que sur une controverse, tout le monde a une opinion, tout le monde a une réaction, et puis ensuite on réagit aux réactions, et ainsi de suite, et... Et du coup, ben, c'est... Enfin, le dispositif de la controverse fait qu'on passe vite à autre chose, quoi. C'est ça qui est terrible avec la controverse. Il y a toujours une, comme tu dis, une headline catchy de Kotaku qui va pousser la suivante, et ainsi de suite, et... C'est un peu une temporalité que je trouve désolante, quoi. Parce qu'on n'apprend pas, on n'a pas le temps d'apprendre de ce qui se passe.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique, Thaïs.
Bon, bah bonne fête, hein.
Et on va passer à celle de Jean.
Merci, merci H. Et merci aux précédentes chroniqueuses. Et du coup, je suis un petit peu gêné parce que moi, j'arrive avec une news beaucoup plus légère, beaucoup moins, moins politique aussi. Pas par volonté, hein, mais juste parce que c'est le cas. Et surtout, c'est beaucoup plus confidentiel. Mais pour moi, ça, disons que ça a une importance dans mon rapport presque quotidien aux jeux vidéo, puisque ça concerne de l'e-sport. Comme vous le savez peut-être, donc j'aime beaucoup l'e-sport et tout particulièrement la scène pro de Smash Bros. Et le dimanche 5 décembre, il y a quelques semaines donc, lors de la finale du CEO, c'est-à-dire un important tournoi qui s'est déroulé en Floride, lors de cette finale donc, le français Gluttony s'est incliné face à l'américain Cola. Et il s'agit, à mon sens, d'un véritable événement dans le petit monde de Smash. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient rien à la scène compétitive de Smash Ultimate, je me permets de rappeler que Gluttony est le meilleur joueur français, il est également le meilleur joueur européen, mais il est aussi un des très rares joueurs du vieux continent à se classer dans le top 50 mondial et le seul à entrer dans le top 15. En bref, il fait partie du très très haut du panier. Cocorico. Depuis le lancement d'Ultimate en décembre 2018 jusqu'à l'automne dernier, Gluttony a remporté absolument tous les tournois européens auxquels il a participé, si ce n'est 5, et à chaque fois il s'est fait sortir en finale par des joueurs extra-européens de très haute volée, notamment à 3 reprises par le Mexicain MK Leo, qui est le numéro 1 mondial. Et au niveau international, c'est la même chose, Gluttony a toujours fini dans le top 20 ou le top 10 de toutes les compétitions où il s'est rendu, et il a uniquement été éliminé par des pointures comme MK Leo, Twig, Light ou Dabuz qui comptent parmi les meilleurs joueurs au monde. Lors du CEO début décembre, presque tous les joueurs du top 10 se sont désistés. Résultat, Gluttony avait le champ libre et c'est sans surprise qu'il a roulé sur les poules et sur le winner's bracket pour arriver en finale où il a été battu par Cola. Alors, Cola est un excellent joueur, attention, mais jusqu'ici, il était loin d'égaler Gluttony en termes d'expérience, de classement ou de résultats, donc sa victoire peut sembler à première vue surprenante, mais je pense qu'en fait, elle est révélatrice d'un double phénomène. Tout d'abord, avec un jeu qui arrive à maturité et une scène compétitive dominée par le Japon, les États-Unis et le Mexique, jouer seulement en Europe ne suffit plus pour rester au niveau à l'international. Or, avec le Covid et la fermeture des frontières, ça faisait plus d'un an et demi que Gluttony n'avait pas mis les pieds aux États-Unis et je pense que ça a clairement pesé dans la balance. D'ailleurs, il en a bien conscience lui-même puisqu'il a récemment confié qu'à l'avenir, il allait essayer de voyager un maximum pour travailler son jeu. Le second phénomène, c'est qu'une nouvelle génération de top players est en train d'émerger, et Cola fait partie des chefs de file de cette nouvelle génération, avec des joueurs comme Riddles et Spargo. Ce sont des joueurs qui étaient actifs avant la période du Covid, et qui étaient même actifs avant Ultimate, sur Smash 4, mais qui jusqu'ici étaient restés dans l'ombre, manquant certainement un peu d'expérience et de maturité en raison de leur jeunesse. Spargo, par exemple, vient d'avoir 16 ans, et Cola en a à peine 19. Sauf que maintenant, ces nouveaux challengers sont en train de rebattre les cartes de la scène compétitive, c'est ce qu'illustre d'après moi la finale du CEO qu'a perdu Gluttony, et je pense que ça annonce pas mal de bouleversements dans les mois à venir, ce qui promet d'être passionnant. Pour conclure, je précise qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, les phases finales du Smash World Tour n'ont pas encore eu lieu, et je n'ai donc pas pu prendre en compte leurs résultats pour cette chronique, et j'espère bien sûr de tout cœur que Gluttony va tout déchirer à cette occasion.
Merci beaucoup pour ta chronique, Jean. Et ouais, je trouve ça vachement intéressant, un truc que tu soulignes, c'est que dans beaucoup d'e-sports, il y a au final des spécificités assez régionales qui ont fini quand même par se créer, alors que c'est du jeu sur internet, mais ouais, avec les questions de lag, etc., bah il y a toujours des scènes régionales qui évoluent différemment, et qu'il y a de plus en plus d'e-sports, on voit les gens commencer à voyager, et c'est ça, et à essayer de choper des spécificités locales, etc. Ça existait peut-être à l'époque où c'était uniquement du local, mais ouais, je trouve que c'est assez rigolo de voir ça se renouveler, je sais pas d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je suis l'e-sport, donc c'est peut-être comme ça depuis toujours, mais voilà.
Il y a toujours eu un petit peu ça. Bah, une autre scène que j'ai beaucoup suivie sur l'e-sport, et je continue à suivre même d'un petit peu plus loin, c'est celle de Dota. De Dota 2, ça fait, j'ai découvert avec le premier International qui était en 2010, je crois, un truc comme ça, ou 2009 peut-être. 2010, je crois. Et j'ai regardé beaucoup de compétitions après pendant quasiment 10 ans. Et il y avait des styles de jeu différents suivant les. La Chine, l'Europe, les États-Unis, il y a des différences en termes de pic, en termes de stratégie, en termes de temporalité dans les parties. Et c'est aussi le cas dans un jeu de combat comme Smash que je suis depuis plus récemment. Ça fait que deux ans et demi que je m'y intéresse. Mais il y a déjà des styles de jeu, des personnages qui sont joués et dans certaines régions, pas dans d'autres. Et en vrai, c'est hyper intéressant que ces compétitions puissent se tenir et qu'il y ait un renouveau du coup après Covid des compétitions offline, parce que ça manquait clairement. Et surtout, genre, je l'ai appris en écoutant et en côtoyant vite fait des joueurs un petit peu investis dans la compétition. Sur Smash, c'est vraiment la question du lag et de la latence est hyper 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 importante. Puisque voilà, avec quelques centièmes de seconde, on peut réagir ou non à un move et donc du coup improviser au cours du combat. Donc du coup, le offline, enfin, est vraiment préférable. Alors que sur un jeu comme Dota, j'ai jamais entendu ça. Il y a beaucoup de compétitions qui sont toujours tenues en online et ça a jamais, enfin en tout cas, j'ai jamais vu de gens ou de joueurs pro ou de commentateurs s'insurger sur le fait que toutes les compétitions n'étaient pas offline.
C'est juste sur cette question des connexions et des trucs comme ça, ça me rappelle toutes les histoires de netcode qu'il y avait eu autour de l'Evo en fait en 2020 et qui était assez fascinante à suivre, toutes les questions de ok, donc à cause du confinement on va être obligé de jouer, qu'il y a des jeux qui ont des netcodes assez solides pour pouvoir faire des affrontements qui se passent du coup avec des gens qui sont dans des pays différents. Et du coup il y avait eu cette histoire de du coup les seuls jeux qui étaient dans la compétition c'était il y avait Mortal Kombat 11, mais il y avait aussi cette espèce de jeu de baston Them Fighting Herds qui est une espèce de spin-off improbable de My Little Pony, enfin bref, mais du coup, qui sont des jeux de baston indépendants, mais qui en fait avaient des netcodes incroyablement solides, quoi, et qui permettaient d'être joué comme ça. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système de rollback, en fait, et ça permet de feinter, en fait, l'affichage de ce que théoriquement ton adversaire va faire, et du coup, t'as juste des petites TP si jamais il y a du lag en fait et il se passe pas exactement ce qui était prévu par le netcode et du coup c'était assez drôle de voir que tous les Smash, tous les Tekken, tous les Street Fighter en fait ils peuvent pas faire ça alors que des jeux de baston indé comme Them Fighting Herds peuvent le faire.
Oui, d'ailleurs sur Smash je précise, je crois, si jamais je dis pas de bêtises, je crois que c'est un système de peer-to-peer en plus pour quand on joue online, donc du coup c'est absolument dégueu. Mais je crois que c'était volontaire de la part de Nintendo qui voulait pas trop investir sur le côté vraiment multijoueur en ligne. C'est ce que j'ai entendu en tout cas de la part de gens du milieu, quoi.
De façon générale, les Japonais sont très bons en développement de jeux de combat, mais pas très bons en développement de jeux online, parce que justement. Historiquement, en fait, les jeux de baston, ils étaient joués dans les salles d'arcade, et du coup, le online local était suffisant, en fait, c'était d'affronter le mec qui était sur la borne en face de toi, et aujourd'hui, ça se voit sur les salles d'arcade, en fait, parce que t'as du lag, t'as du drop, t'as des déconnexions et tout, parce que toutes les bornes sont en ligne, et ils sont un peu rattrapés, on va dire, par les conséquences de pas avoir formé des gens en interne à faire de la programmation réseau.
Alexandre, tu voulais aussi réagir ?
Oui, enfin, j'allais effectivement parler aussi un peu de ce netcode, parce que c'est vrai que globalement, le netcode de Nintendo est souvent très 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 moisi, mais au point où, du coup, la scène de Smash, il me semble que le confinement, ça a vraiment attaqué très très fort cette scène-là, sur un niveau international, et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus pour compléter. Du coup, je suis assez content d'entendre que c'est reparti, a priori, et que ça a l'air de marcher. Donc c'est bien s'ils auront réussi à se relever de cette débâcle de confinement.
Je confirme ce que tu dis, en effet, ça a beaucoup attaqué la scène. Il y a même des joueurs après qui refusaient, parce qu'il y a eu pas mal de compétitions quand même en ligne, forcément. Il y a eu plein d'initiatives qui ont été prises, à la fois par des commentateurs qui ont créé leur tournoi pour animer un peu la scène, des joueurs qui ont fait ça aussi, des assos, des choses comme ça. Et notamment aux États-Unis, mais il y a plein de joueurs qui refusaient, même des joueurs, des top players refusaient d'y participer, ou alors y participer avec des persos qui n'étaient pas leur main. Ils prenaient ça un petit peu par-dessus la jambe parce qu'ils, voilà, ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir jouer à leur véritable niveau. En revanche, ça a aussi permis d'un autre côté à certains joueurs de se révéler. Et Cola, par exemple, même s'il était déjà présent sur la scène avant, il s'est vraiment distingué sur plein de tournois en ligne. Parce que lui, du coup, il était déjà dans les hautes sphères de Smash, mais c'était pas encore un top player, et il s'est surinvesti dans tous les tournois en ligne aux États-Unis, et il en a gagné énormément, et il s'est fait un véritable nom comme ça, ce qui fait que maintenant il est considéré comme dans le top 5 des joueurs en ligne au niveau mondial.
Et bah bravo à lui.
Et pour conclure, je vais passer à Manus de l'année. Et ma news de l'année, c'est l'annonce il y a quelques jours de la création du Vodeo Workers United, le premier syndicat d'une boîte de jeux vidéo aux États-Unis. Et ouf, ça a été dur de choisir, et j'ai vu que j'étais pas la seule là-dessus. Entre les NFT qui tentent de transformer les jeux vidéo en une autre place de marché, la quantité astronomique d'abus et d'agressions dans l'industrie mise à jour par la presse, et en dehors de ça, la tournure ultra-violente de la politique française ces derniers mois, j'ai failli être très très déprimante ce soir. Cette tournure, parlons-en un instant. On est passé d'un candidat qui disait clairement que la laïcité servait juste de couverture à l'islamophobie, à un gouvernement de centre-droite qui, face à un début de révolte, prend une tournure violemment sécuritaire, puis islamophobe, jusqu'à attaquer violemment plusieurs associations de défense des droits de l'homme et en dissoudre une. À ça se greffe un candidat ouvertement pétainiste, propulsé par l'une des plus grandes fortunes de France et sa mainmise sur les médias. On sort de 3 ans de la démonstration la plus claire que le fascisme, c'est juste le dernier moyen de défense du capitalisme mis à mal. Alors quel rapport avec le jeu vidéo tout ça? Ben, j'ai l'impression qu'on se donne beaucoup l'impression de faire du jeu vidéo en temps de progrès. Et c'est vrai, il y a du progrès dans notre industrie, dans notre petit coin, accessible après plusieurs années d'études chères, éreintantes, et qui garantissent rarement un taf, et c'est déjà quelque chose. Mais hors de notre bulle, ben, la situation elle ne s'améliore pas vraiment. Et il serait peut-être temps de regarder plus à l'extérieur, peut-être qu'on devrait plus se demander ce que c'est que de faire du jeu vidéo en temps de fascisme, de fascisation en tout cas. Ça se traduit aussi par le fait qu'on n'a pas vraiment d'opposition au capitalisme. On va de l'approbation totale, avec l'idée qu'on pourrait tout transformer en capitalisme inclusif, à une vague critique pour espérer en sortir dans son coin. Sauf que c'est pas le capitalisme qui nous sauvera, et ça il n'arrête pas de le répéter. Le fait de s'organiser pour défendre nos droits, c'est le premier pas pour se tourner vers cet extérieur. L'un des nombreux pas possibles, d'ailleurs. C'est en arrivant à Solidaire que j'ai réalisé à quel point le syndicat était forcément ancré et investi dans tout le reste de l'écosystème militant, parce qu'en défendant nos droits et ceux de nos proches, on se réunit. Ça m'a aussi un peu donné la rage contre le côté défaitiste de beaucoup de l'industrie, alors que les gens sont là, se bougent et s'organisent. La syndicalisation continue en France, dans les coulisses, elle prend aussi énormément d'ampleur dans l'industrie américaine, et là, elle a eu sa première victoire, et c'était un peu mon brin d'espoir cette année. Du coup, je vous laisse la parole, Thaïs.
Non, rien, c'était juste pour te dire que je channel complètement ton énergie. Vraiment, je pense que c'est la chronique que j'aurais écrite si je m'y prenais plus tôt et que t'avais pas choisi le sujet. Je me fonds de manière liquide dans tes mots.
Merci beaucoup. Alexandre, tu voulais réagir?
Ouais, je voulais juste dire que c'est, j'avais pas du tout entendu parler de ça, du coup bah forcément je suis super content, et je suis aussi super content parce que ça fait deux entreprises américaines, enfin sur le sol américain en tout cas, qui nous sortent un syndicat en peu de temps, parce qu'il y a eu la même chose avec Starbucks il y a quelques semaines. Je crois, enfin, j'ai vraiment aucune notion du temps, donc si ça se trouve c'était il y a 2 mois, j'en sais rien. Mais oui, on a eu, il y a eu aussi aux États-Unis du coup premier syndicat de travailleurs et travailleuses à Starbucks. Et genre, c'est deux excellentes nouvelles, je trouve, pour la représentation des travailleuses. Et voilà, c'est trop cool. Merci d'avoir partagé ça, parce que tu rends ma fin d'année un peu plus lumineuse, en tout cas.
J'avais pas du tout vu pour Starbucks, c'est vrai que c'est très cool. D'ailleurs, j'ai pas trop eu le temps de revenir dessus, mais en plus, aux États-Unis, il y a un certain nombre de conditions pour qu'un syndicat soit reconnu. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une certaine partie de la boîte qui en fasse partie ou qui soit pour. Je connais plus exactement les détails, mais voilà, c'est pas comme en France où il faut juste que deux personnes dans la boîte soient syndiquées pour pouvoir revendiquer déjà une certaine place. Là, c'est vraiment un beaucoup plus gros événement que juste une section syndicale qui se créerait, même si en France aussi les sections syndicales commencent à prendre du pouvoir, c'était pas le mot que je cherchais, en tout cas à grossir. On va bientôt passer à nos jeux de l'année, mais d'abord une petite pause musicale avec Crownshine, composé par Minako Adachi, pour Pokémon Épée et Bouclier. Bienvenue à Couronnage. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, notre sélection de jeux de l'année. Et on commence par sauter deux semaines dans le futur pour écouter celui de Cindy.
Moi c'est Cindy, et je vais vous avouer un secret. 2021, je n'ai pas pu jouer. Enfin, si, j'ai pu jouer. J'ai enfin terminé Gris, qui est sorti en 2018, et Valhalla Cyberpunk Bartender Action, qui lui est sorti en 2016. Du coup, vous voyez où je veux en venir. Mon souci en fait, c'est que je vis dans deux mondes, le passé et le futur. Le passé, bon, vous avez compris pourquoi. Et le futur, c'est parce que je suis narrative designer. J'écris des scénarios et je rédige des dialogues que vous, joueurs et joueuses, ne pourrez expérimenter que dans 3 ou 4 ans. Du coup, quand il s'agit de regarder les jeux de 2021, eh bien, bah, faut me rappeler qu'il existe un présent et qu'il serait important de m'y attarder. J'ai donc commencé plein de jeux en 2021, mais j'en ai fini aucun. Parmi ceux qui m'ont le plus marqué, je vais citer Life is Strange True Colors, Inscriptions, Toem et Road 96. Et ouais, j'avoue que ça serait criminel de ne pas jouer à un jeu sur lequel j'ai participé d'une manière ou d'une autre. Mais si je devais en choisir un seul, LE jeu de 2021, eh bien pour moi, c'est Unpacking. Unpacking, c'est un jeu vidéo de réflexion, qui est développé par Witchbeam et qui est publié par Humble Games. D'après sa description Steam, il s'agit d'un puzzle zen sur l'expérience familière de sortir ses affaires de carton et de le passer dans une nouvelle maison. Donc oui, c'est un point and click où vous défaites vos cartons et vous emménagez. Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas terminé ce jeu. Mais ce qui m'a frappé avec ce dernier, c'est sa capacité à manipuler l'environnemental telling. Tout est raconté à mesure qu'on défait les cartons au fil des ellipses temporelles. L'évolution des ambiances permet à notre cerveau de créer des liens puissants qui nous attachent et nous font aimer ce jeu. En tant que narrative designer, Unpacking est plus qu'un jeu, c'est un véritable support d'apprentissage. Comment créer une bonne narration silencieuse? Unpacking. Comment émouvoir sans dire? Unpacking. Comment devenir un bon narrative designer? Unpacking. Le show dont elle est omniprésent, tel un soupçon de douceur qui nous accompagne, nous et notre imagination au fin fond de la narration. Je vous invite à le faire, il n'est pas très long, et dans la veine des jeux zen, simples et satisfaisants, vous avez de quoi vous faire plaisir. J'espère juste qu'au moment où cette émission sortira, eh bien, moi j'aurai eu le temps de le terminer. C'était tout pour moi. Merci.
Merci beaucoup, Cindy. J'ai l'impression que sur le plateau, Unpacking, tout le monde l'a un peu dans sa bibliothèque, mais on n'a pas encore eu le temps de le lancer, vu comme la fin d'année a été occupée. Et en tout cas, on va passer au jeu de l'année de Thaïs. À toi, Thaïs.
Merci. Je déteste les tops, les classements, les awards et autres gotti, et je déteste jusqu'à leur logique sous-jacente de hiérarchisation. Ma take tiède, c'est que chaque jeu qui parvient à sortir est un miracle et que classer, c'est de droite. La conséquence, c'est que quand on m'a dit qu'il allait falloir choisir un seul jeu dont parler, je me suis retrouvée bien embêtée. J'aurais pu parler de Shin Megami Tensei V, très clairement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures cette année alors qu'il est sorti le 11 novembre. J'aurais pu parler de Pikmin Bloom, parce que j'aime bien les jeux qui changent ma vie et que grâce à lui, j'ai les mains desséchées par le froid, mais la cuisse puissante. Pour le contexte, Pokémon Smile, le jeu d'apprentissage du brossage de dents, était un des jeux qui m'avait le plus marqué l'année dernière. J'aurais pu parler de Mythosa, petite expérimentation bizarre qui permet de contempler les conséquences de décisions rachitiques sur le sort d'une petite graine. Et puis, je me suis dit qu'au final, le plus intéressant, c'était sans doute de vous parler de Kyo Kiyomi. J'ignorais complètement l'existence de cette série de G-Mod, qui a pourtant vu le jour en 2008 et compte déjà 11 jeux. En 2021, c'est Minna de Kyo Kiyomi 3, Consider It More and More, Father to Son, qui est sorti, et qui a attiré mon attention dans une de mes sessions de doom scrolling du Nintendo eShop. Je fais ça pour me désintoxiquer de Twitter, et ça rend vachement moins triste. Le fond est tout blanc. Le dessin, juste un tracé rouge ou bleu. Il y a des personnages rigolos avec des têtes toutes rondes, des rames de métro animées en boiling lines, des robots, des oiseaux, des bossos au cul qui posent pour un selfie et plein d'autres choses étranges. S'il était besoin de le préciser, il n'y a pas de ray tracing. Mais ça n'est pas très grave, parce que la seule chose que le jeu reflète, c'est notre capacité à en avoir quelque chose à faire du monde qui nous entoure. Kyukiyomi, littéralement, ça veut dire « lire l'air » ou « lire l'espace ». C'est l'équivalent japonais de l'expression anglaise « read the room », qui, en revanche, n'a pas d'équivalent en français, ce qui est amusant. Passons. Si je devais pitcher Kyukiyomi, je dirais « c'est le WarioWare de la considération ». Une succession de jeux minuscules, dans lesquels on ne peut bouger qu'un seul élément pendant un laps de temps très court, afin de réagir en tenant compte des besoins des personnages autour de nous. Parfois, les situations sont faciles à lire. Parfois, pas du tout. Parfois, on soupçonne qu'elles le sont pour des personnes japonaises, mais que c'est dur pour nous. Parfois, c'est juste incompréhensible. Et parfois, on ne va pas se mentir, les situations sont cringe, et je recommande d'y jouer à plusieurs pour désamorcer la gêne. Il y a plusieurs modes de jeu. En coop, en campagne, en mode inconsiderate, on peut voir ses statistiques de réussite et même les sections solo sont très chouettes à plusieurs grâce au format WarioWare au ralenti, le jeu faisant lui aussi preuve de beaucoup de considération à notre égard. Kyukiyomi, c'est bizarre et drôle et c'est beaucoup de choses que j'aime dans le jeu vidéo japonais. C'est surtout un jeu dont chaque opus coûte trois fois rien, sur mobile ou sur Switch, qui se joue en multi et qui nous apprend à tenir compte des autres, à savoir quand s'arrêter et à désamorcer les conflits. Ça m'a paru pertinent de vous en parler pour cette émission de Noël, parce que ça goûte l'énergie dont on est beaucoup à avoir besoin pendant les fêtes de fin d'année. Bonne fête, bon courage à tous, avec toute ma considération.
Merci beaucoup Thaïs. C'est drôle parce que justement je l'ai croisé il y a deux semaines à peine en version physique sur les étalages de République. On a un peu hésité à le prendre, on a vu qu'il n'était pas beaucoup moins cher sur l'eShop, donc ça avait l'air très rigolo.
Je vous avoue, j'ai acheté le premier, et après, le lendemain, j'ai acheté le deuxième, et le surlendemain, j'ai acheté le troisième. Et franchement, on se régale, on y joue le midi au bureau, tous ensemble. Le mode campagne, c'est juste 5 mini-jeux, puis un commentaire sur comment t'as réussi, puis re-5 mini-jeux, et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'à 100. Et donc, en fait, on en fait 5, on passe la manette au suivant, et ainsi de suite, on se met à plusieurs en mode hive mind pour essayer de décrypter les situations, et c'est vraiment, vraiment très drôle. C'est très bizarre, mais c'est très drôle.
Du coup, en fait, j'ai un truc que je comprends pas trop, c'est le troisième, mais il y a déjà 11 opus qui sont sortis. J'ai pas suivi le lien entre le...
Parce que tu disais qu'il y a
11 jeux, mais que c'est le troisième. Il y a une chronologie un peu chelou à la Final Fantasy.
Non, on n'en est pas là parce que c'est pas vraiment des jeux narratifs. Alors, le troisième a un scénario, ce qui en fait vraiment une exception. Mais non, alors... J'avais gardé la page ouverte pour pouvoir vous faire le détail, mais... En fait, c'est le troisième de la série Kukiyomi 2. Consider It.
Ah, ok.
Qui est les versions Switch des jeux. Et avant ça, en fait, il y a d'autres installments dans la série. Le premier, il est sorti sur mobile en 2018. Il s'appelle juste Kukiyomi. Il a été porté sur iOS et Android en 2011. Et après, il y a un Kukiyomi sur DS. Il y a un Kukiyomi 2 sur mobile. Il y a... Oh là là, c'est terrible. Du coup, comme ils sont jamais sortis en Occident, ils sont tous en japonais. Donc, si tu veux, c'est même pas le seul Kukiyomi 3, en fait. Parce que ben, c'est Kukiyomi 3, Consider It, More and More. Et avant ça, il y avait Kukiyomi 3. Je t'avoue que sur la numérotation, c'est pas carré. Mmh.
Ouais.
Parce que, par exemple, il y a un Kukiyomi 3, mais il n'y a pas de Kukiyomi 2. Il y a Yoshimoto no Kukiyomi et Yoshimoto no Kukiyomi 2. Mais, enfin, bref, genre, c'est vraiment... C'est compliqué.
T'as ouvert la boîte de Pandore, je crois.
Ouais. Mais du coup, j'ai pas encore testé tout ça sur mobile, là, mais je pense qu'il y a peut-être moyen que je trouve un petit VPN, I don't know. Mais en tout cas, enfin, ceux sur Switch sont hyper accessibles et ça vaut le coup. Et j'avoue, c'est un peu passé de façon sous-jacente, mais j'ai aussi parlé de Mythosa dans l'introduction. Parce que j'ai vraiment découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est gratuit sur mobile. Je le recommande fortement. Fortement. C'est écrit M-I-T-O-Z-A. Et c'est très rigolo.
Eh bien, merci beaucoup Thaïs. Et on passe maintenant à mon jeu de l'année. Et mon jeu de l'année, il s'appelle Northern Journey. C'est un petit jeu développé par une seule personne qui a très peu fait de bruit. Je l'ai découvert vraiment par hasard sur Twitter. Et c'était ma claque de l'année. Un mystérieux personnage a fait couler votre bateau et vous promet de le réparer si vous lui ramenez un certain artefact. Vous plongez donc dans la forêt norvégienne, parcourrez ses grottes, vous vous confronterez à sa mythologie, le tout à la première personne, armé au départ d'un simple lance-pierre auquel se rajouteront un arc, une arbalète et d'autres surprises. Pensez Oblivion, voire même Morrowind, dépouillé de ses villages, ses quêtes, ses systèmes de niveaux, d'armes, d'équipements. Juste explorer encore et encore des contrées étranges, parfois hostiles, et qui gardent souvent beaucoup de leur mystère, même une fois sillonnés. Premièrement, c'est beau. De loin, le jeu ne paye pas de mine. Techniquement, les moyens sont très limités, et des montagnes et des grottes, on en a déjà vu. Mais il y a tellement d'amour dans la façon dont le jeu décrit ces paysages d'Europe du Nord, c'est très gris, il fait très moche, mais là-dedans se rajoute une végétation aux couleurs ultra vives, le jeu n'hésite pas à utiliser beaucoup de noir dans ses grottes, plus on plonge, plus l'imagination devient folle et le lieu fantastique, et c'est en fait plein d'audace. Le jeu excelle aussi dans son étrangeté. Les êtres que vous rencontrez sont animés avec trois bouts de ficelle, ils ressemblent d'ailleurs à des marionnettes. Mais tout est fait avec tellement d'expressivité que la forêt est vite fascinante. C'est comme si le RPG avait bifurqué et s'était inspiré d'un ensemble mythologique très différent, et c'est trop bien. Deuxièmement, un peu plus tôt cette année, Bennett Foddy, le célèbre développeur de Getting Over It, râlait dans un post de blog sur les jeux designés en 3 dans le 3 dans le 3. C'est ce design qui vous fait répéter la même tâche 3 fois, débloquer 3 portes, récupérer 3 artefacts, etc., juste le temps que vous vous en lassiez. Puis on passe à l'objectif supérieur, etc. Et il y opposait un design à l'infini, quelque chose de tellement plaisant qu'on peut le répéter encore et encore tant c'est fun. Northern Journey est bien de ce deuxième type. Bon, au final, il y a 3 artefacts à récupérer, mais là où le jeu brille, c'est quand il nous lâche dans son monde, à plonger toujours plus profondément dans la forêt, à parcourir méticuleusement ces montagnes en passant de tyrolienne en tyrolienne pendant de longues minutes. C'est un Elder Scrolls épuré, qui nous offre juste encore et encore le plaisir de sillonner toujours plus loin ses terres et ses grottes. C'est un design que je vois un peu plus cette année, pensez au retour de Shin Megami Tensei, à ce plaisir de dungeon crawler dans son désert qui se répète à l'infini, et ça me fait vraiment plaisir. Alors attention, c'est pas très agréable à jouer, c'est plein d'imprécisions, on glissera de falaise encore et encore et encore, heureusement on nous explique très vite la quick save, mais si c'est votre truc, jetez-vous dessus, rien que pour son passage sous-marin qui est vraiment ma claque de l'année. Thaïs, tu voulais réagir ?
Bah ouais, pour le coup, moi, je connaissais pas du tout ce jeu, j'en avais pas du tout entendu parler avant que tu le notes dans le conducteur de l'enregistrement. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches et je voulais juste mentionner le fait qu'il y a un adjectif que j'aime énormément dans la description du jeu sur la page Steam. Et en fait, la première phrase de la description, c'est « A Norwegian happy sad game set in a northern land ». Et je trouve que, genre... Juste le fait d'écrire le mot happy sad, c'est, c'est hyper intriguant en fait. Et comme tu as mentionné Shin Megami Tensei, pour le coup, c'est aussi un jeu dont j'aurais envie de le décrire avec un adjectif de type happy sad. Et je trouve ça très intriguant. Donc merci pour la découverte.
De rien. C'est vraiment des trucs qui m'avaient fait acheter le, qui m'avaient fait craquer pour le jeu. Et oui, je l'ai découvert aussi par hasard. Il me semble que le dev de Dusk a fait un long thread dessus en le découvrant. Et c'est un peu ça qui a donné un tant soit peu de visibilité au jeu. C'est vraiment les 3 secondes de visibilité qu'il a eu. Mais ouais, c'est un jeu qui est vraiment très surprenant. Voilà.
Et ce côté happy sad, tu l'as ressenti du coup ? C'est comme ça que tu le décrirais après l'avoir fait ?
C'est une très très bonne question. Je saurais pas formuler une réponse complète. On retrouve vraiment ce côté de beaucoup de contes pour enfants et de mythes, pas ceux qui se finissent bien dans toute la joie, etc., mais justement leur côté un peu mystérieux, etc., qui se répète vraiment dans le jeu. Et on, voilà, j'ai pas été voir tout ce qu'il y avait derrière, mais oui, effectivement, je vois d'où ça vient. Et autant je sais pas si c'est un adjectif que j'utiliserais, autant je le trouve très intéressant de le placer là, et en vrai, il m'a intéressé pour les bonnes raisons, et je regrette, enfin voilà, il m'a intéressé pour les bonnes raisons. Lise, tu voulais aussi réagir ?
Oui, je sais plus si tu l'as mentionné, mais du coup c'est plus un jeu d'exploration, ou il y a un petit peu des combats, je crois que tu parlais d'arbalète à un moment donné ?
Alors oui, il faut imaginer ça un peu comme un Elder Scrolls, où vous allez avoir quelques ennemis qui traînent dans les caves, etc. Donc c'est quand même pas mal centré sur... Enfin, il y a quand même du combat un peu partout, c'est plus ça que de l'exploration ou un Walking Simulator, voilà. Mais c'est aussi, enfin voilà, il n'y a pas du tout tous ces systèmes de progression, de montée de niveau, etc. C'est vraiment le minimum.
Parce que c'est vrai, quand j'ai vu quelques images du jeu, ça m'a tout de suite fait penser à Skyrim. Donc c'est pour ça que je me demandais s'il y avait un peu des... Jusqu'à quel point la ressemblance était valable, quoi.
Et on va passer au jeu de l'année suivant, qui est celui d'Alex. Alex, c'est à toi.
Merci H. Alors moi, j'étais prêt à vous parler de FF13, qui est arrivé dans le Game Pass. Ou bien de FF7 Remake pour la deuxième année de suite, puisqu'il vient tout juste de ressortir sur PC. Mais finalement, changement de programme, j'ai choisi de vous parler de Halo Infinite. Vous remarquerez pour commencer que je suis seul ici à ne pas avoir pris un jeu indé, c'est dire à quel point je suis un gamer moyen. Et ensuite, désolé Jean, je sais que Halo c'est ta saga, mais c'était un beaucoup trop bon jeu pour ne pas l'évoquer. C'est bien parce que justement j'ai un peu menti, c'est pas tant un excellent jeu qu'un soulagement. Soulagement parce que j'ai l'impression qu'enfin, 343 Industries, que je vais continuer à appeler 343 Industries, a compris ce qu'était un jeu Halo. Après les 4e et 5e épisodes, que je qualifierais personnellement d'anecdotiques, tant au niveau du scénario que des choix de gameplay, Halo Infinite est un renouveau pour la série, puisqu'il réalise un des souhaits initials de Bungie, qui était de permettre aux joueurs et joueuses d'évoluer sur un Halo en monde ouvert. Et du monde ouvert, je peux vous dire que j'en ai bouffé sur l'écriture de mon mémoire. De l'excellent comme Outer Wilds ou Breath of the Wild, du moins bon comme Assassin's Creed Odyssey ou The Witcher 3. Et Halo Infinite, c'est un excellent pot pourri de tout ça. Une mobilité extrêmement plaisante grâce à son grappin, une gestion de l'inventaire qui est ce qui m'a semblé le plus proche d'un Breath of the Wild depuis Breath of the Wild en fait. C'est-à-dire qu'au sein de ce monde ouvert, on est toujours amené à changer de stratégie en plein combat. Au début, beaucoup par manque de munitions, et ensuite par simple envie de grappiner tous les ennemis, parce qu'il n'y a vraiment que comme ça qu'on se sent vivant. Et c'est aussi un monde ouvert qui hérite de 10 ans de monde ouvert. Il a des points d'intérêt nombreux et franchement inutiles, au point même que l'IA qui nous accompagne nous rappelle toutes les 5 minutes, parfois même moins, qu'on a quand même une mission à accomplir et qu'il serait peut-être temps de s'y mettre. Et finalement, ce gameplay qu'on s'approprie dans le monde ouvert est ce qui rend les missions, qui se déroulent donc dans des environnements souvent fermés, beaucoup plus intéressantes. Ce swing de grappin que j'essaie de faire depuis 3 heures, c'est le moment de le tenter dans un environnement restreint pour tomber sur mes ennemis là où ils s'y attendent le moins. Lancer des bobines à fusion en plein air, c'est facile, mais dans ce couloir de 3 mètres de haut par 2 mètres de large, est-ce que je serai assez précis ? Et je ne vais pas trop m'attarder sur le scénario, je parle d'un jeu qui vient tout juste de sortir, mais je dois dire que je trouve honnêtement toujours ça éclaté au sol, sans doute parce que je n'adhère pas du tout au projet cross-média de 343 Industries. Voilà, pour juste vous poser un peu la base du scénario de Halo Infinite, on quittait Halo 5 Guardians sur une menace galactique d'une ampleur sans précédent, encore plus grave que ces Covenants qui ont vitrifié Reach. Et finalement, Halo Infinite, ça débute plusieurs mois après, la menace a été neutralisée. Je vous laisse vous faire votre propre idée avec ça, mais pour moi, c'est un réel gâchis. Alors voilà, pour conclure, Halo Infinite, c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais c'est franchement loin d'être le pire de ceux auxquels j'ai joué, et il remporte la partie parce que je n'ai toujours pas joué à FF7 Remake Intergrade.
Merci beaucoup, Alex. Oh, de toute façon, entre Final Fantasy et Halo, t'es resté un peu dans le même thème. Le Master Chief, c'est un peu notre cloud à nous. Je trouvais ça d'ailleurs rigolo que cette question du cross-média, parce que ça me rappelle FF15, où ils avaient aussi tenté du cross-média, et où pareil, ils avaient eu cette même idée de mettre un des très grands moments de l'univers dans un film préquel que quasiment personne n'avait vu. Et ouais, si vous avez fait le début de FF15, vous voyez ce que je veux dire quand on apprend une nouvelle absolument énorme et qu'elle est arrivée complètement hors de l'écran, qu'on l'apprend dans les journaux et à la radio, et qu'il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Thaïs, tu voulais...
Ouais, je voulais surtout pas rater cette opportunité de bâcher Kingsglaive, puisque c'est le nom du film d'FF15 qui était vraiment pas très bien. Et le fait est qu'effectivement, t'aurais fini par parler de cross-média aussi en parlant d'FF7, tout simplement. qui n'est pas le dernier sur le cross-média, mais les gens qui m'ont déjà entendu parler d'FF7 savent que je peux le faire pendant plus de 14 heures, du coup je vais en rester là.
Surtout que le cross-média de FF7 est, je trouve, un peu mieux pensé quand même que celui de Halo.
Je sais pas si t'as passé du temps à lire tous les romans d'FF7, frérot, mais je t'assure que c'est pas très bien pensé.
Ah merde, non. Oui, mais au moins, enfin, je sais pas, genre quand tu joues au jeu, t'as pas l'impression qu'il te manque la moitié des infos, quoi.
Non, si. C'est vrai. Bah, ouais, alors après, moi je demande à voir, parce que bon, FF7 Remake, c'est pas comme si on avait le jeu entier. Mais bon, enfin, tu vois, tous les personnages qui arrivent dans FF7 Remake et qui n'existaient pas dans l'original, en fait, c'est des personnages qui viennent des romans et des light novels d'FF, en fait. Enfin, d'FF7. C'est des personnages qui existent dans des temporalités qui ont lieu entre le premier FF7 et Advent Children et genre... En fait, tous les interstices ont été remplis de lore jusqu'à ce que ça craque de tous les côtés et plus rien n'a de sens, en fait, dans le monde étendu d'FF7, on va dire. Après, la vérité, je connais pas Halo. Je connais extrêmement mal. Et à chaque fois que j'entends ce nom, moi, je pense à la chanson de Beyoncé. Et du coup, très clairement, je peux pas faire la comparaison. En revanche, je peux dire que pour de vrai, ça craque de partout dans l'univers étendu d'FF7. Ça, je peux le dire avec beaucoup, beaucoup de certitude.
Si vous voulez un aperçu du lore de Halo sans vous taper 5, 6, peut-être 8 ou 9 jeux, plus les romans, au moins pour les romans, il y a du coup Brian David Gilbert, dont j'avais déjà parlé dans une chronique, qui pour la chaîne de Polygon, donc la chaîne YouTube de Polygon même, a fait une vidéo où du coup il a lu tous les romans du lore de Halo et il en a fait une synthèse. Donc voilà, je vous laisserai vous faire votre avis là-dessus en tout cas.
J'avoue, du coup j'ai menti quand j'ai dit que je connaissais rien à Halo parce que j'ai vu cette vidéo et elle est vraiment très drôle.
Ce que je voulais savoir, c'est Jean, est-ce que t'as déjà pu t'as eu le temps un peu de toucher à Infinite ou pas du tout?
Alors pas du tout, et j'en ai pas très très envie, mais en revanche, si je peux porter mon grain de sel sur le cross-média de Halo, quand j'ai refait, j'en ai reparlé l'année dernière dans la saison 2 de l'émission, j'avais refait Halo avec la version Anniversary pour replonger en adolescence et tout, et c'était vraiment très cool, et j'étais tellement reparti dedans, je me suis dit ouais, je vais lire les romans et tout. J'ai lu un quart du premier, je crois, qui s'appelle La Chute de Reach, ou un truc comme ça, et c'est navrant. Alors ça apporte des éléments, ça alimente le lore, mais c'est si mal écrit, quoi. Et en plus j'ai lu en original, quoi. J'ai lu en anglais et tout, et même en anglais, c'est... Ne faites pas ça, par pitié, ne faites pas ça. Lisez les pages résumées de Wikipédia, ça sera largement mieux, parce que les romans, c'est triste. Et je pense que je me suis jamais frotté aux romans, par exemple, de Warcraft et tout, mais je pense, sans m'avancer, que globalement le cross-média autour du jeu vidéo, ça a jamais été une grande réussite, et le grand film qui a été fait pour grand en termes de moyens, pas grand en termes de réussite, qui a été fait autour de World of Warcraft, là, je sais plus comment il s'appelait, qu'avec un pote à moi on est allé voir, parce qu'on s'est dit allez, on y va, on a joué à WoW des années, on va voir, quoi. Et on est ressorti Voilà, je sais pas comment on est ressorti d'ailleurs, mais voilà, c'était catastrophique. Donc je pense que globalement, le course média autour du vidéo, j'ai pas d'expérience en tête qui ont été réussies, ou en tout cas qui avaient avec de bonnes idées. Je vous laisse la parole là-dessus, parce que moi, j'ai pas d'exemple à donner.
Bah, en vrai, je pense que ça peut marcher, mais que là, du coup, dans l'idée de Halo Infinite, il me semble que voilà, c'est ce qui se passe entre les jeux et raconté un peu dans des romans, dans des comics, dans plein de choses. Et j'en discutais avec un copain qui me disait, en fait, moi, je suis arrivé dans Halo Infinite, parce que lui, il a fait un marathon de tous les Halo juste avant. Donc déjà, ça demande du courage. Et il arrive dans Halo Infinite et en fait, on lui dit, putain, tu vois, cet événement super important auquel tu te disais que t'allais participer et tout, et ben en fait, non, ça a déjà eu lieu, salut quoi, passe à la suite, et voilà. Et du coup, juste la vidéo de Polygon, je viens de la retrouver et, sur YouTube, je sais pas, j'ai la traduction automatique française et du coup, ça a traduit le livre qui s'appelle « J'ai lu tous les romans de Halo et je suis devenu le Master Chief de la solitude ».
Eh bien, merci beaucoup Alex pour ta chronique et pour tout cet amour sur Halo. On va passer au jeu de l'année de Jean. Jean, à toi.
Merci H. Alors pour moi, 2021, ça a un peu été l'année des déceptions. Alors qu'en plus, j'ai rarement autant joué à des jeux l'année même de leur sortie. J'ai été déçu par 12 Minutes, Genesis Noir et Voyage. J'ai trouvé Bebop, Road 96 et Sable. Et je suis assez mitigé concernant Backbone et Death Door, par exemple. Alors certes, j'ai pas joué à tout, et j'ai quand même passé de très bons moments sur certains titres, je vais pas mentir, genre Deathloop, Inscription, No Longer Home, j'ai trouvé ça très, très très cool. Mais quand il a fallu que je sélectionne mon jeu de l'année pour notre émission d'aujourd'hui, j'ai bloqué un petit moment, puisque rien ne m'est apparu comme une évidence. Et puis en plus de ça, je partage assez la vision de Thaïs sur les classements et les tops. Donc, après m'être rendu compte que je n'avais pas vraiment de jeu de l'année, je me suis dit que je n'allais pas parler du jeu que j'avais préféré, mais du jeu qui m'avait peut-être le plus marqué. Et il s'agit de Before Your Eyes, qui a été développé par Goodbye World Games. On en avait déjà discuté très rapidement avec toi, Ash, en septembre dernier, dans le tout premier épisode de la saison, au cours du blind test, mais je vais entrer un peu plus dans les détails aujourd'hui. Dans Before Your Eyes, on incarne Benjamin Breen, ou plutôt l'âme de Benjamin Breen fraîchement décédé, et on nage dans l'océan infini du monde des morts avant d'être repêché par un passeur qui se porte volontaire pour nous introduire auprès de la gardienne qui, on le comprend très vite, autorise ou non les défunts à accéder à une sorte de paradis. Mais pour mettre sur pied un plaidoyer efficace, le passeur va avoir besoin d'en savoir plus sur Benjamin, c'est pourquoi on va revivre ses souvenirs à la première personne, et c'est ce qui compose l'essentiel du jeu. Comme j'ai très peu de temps, je vais m'arrêter sur les aspects de Before Your Eyes qui me semblent les plus importants et les plus réussis. Tout d'abord, c'est un jeu court. Il gagne vraiment à être fait d'une traite. En 1h30, c'est plié et pour moi, c'est un énorme point positif. Je m'attarde pas sur ce détail et sur ce sujet, mais on pourra en reparler si vous voulez. La question de la durée de vie, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Deuxièmement, je trouve le jeu plutôt bien écrit. Il y a un ou deux rebondissements que j'avais pas vu venir et qui sont assez réussis. Et l'histoire est assez touchante. J'ai refait le jeu la semaine dernière avant d'écrire cette chronique. Et comme la première fois, j'ai versé une petite larme à la fin. Mais c'est peut-être moi qui suis assez émotif aussi. Et troisième point, surtout l'aspect le plus intéressant de Before Your Eyes, d'après moi, c'est le fait que le jeu se joue avec une webcam et que le gameplay repose presque entièrement sur le clignement de nos yeux. Déjà, je trouve ça chouette que le jeu fasse un pas de côté par rapport au pad et au combo clavier-souris pour proposer un gameplay, disons, original. Mais en plus, ce gameplay a l'avantage d'être signifiant puisque cligner des yeux sert à interagir avec des objets ou des personnages, mais aussi et surtout à passer le temps pour passer d'un souvenir à l'autre. Et en clignant parfois des yeux involontairement, on coupe en plein milieu une scène qui n'était pas finie pour enchaîner avec un autre souvenir. Et je trouve que ça reflète bien la nature fuyante et fugace des souvenirs dont on n'a pas toujours ni le début ni la fin. Et quand on cherche à s'en rappeler, parfois ça nous échappe et pas moyen de remettre la main dessus. Alors voilà, c'est pas le meilleur jeu que j'ai fait, ni forcément cette année, ni de ma vie. Peut-être que je m'en souviendrai, peut-être pas dans 10 ans, mais pour 2021, j'ai trouvé que c'était une expérience chouette, assez originale, et j'attends de voir ce que va faire Goodbye World Games par la suite.
Merci beaucoup Jean. Est-ce que quelqu'un voulait réagir au sujet de Before Your Eyes? Est-ce que quelqu'un y a joué?
Alors moi non, mais j'avoue, du coup, ça ne saurait tarder, parce que ça a l'air incroyable.
Très bien, Thaïs, on n'est pas sur un niveau d'écriture vraiment ouf, mais voilà, l'expérience est vraiment... Ça gagne à être fait. Moi qui suis pas très en plus, genre des trucs type... pas contrôleur alternatif, mais genre... nouvelles techniques, genre motion gaming, VR, etc. dans le jeu vidéo, pour moi, je trouve souvent que ça relève un peu du gadget. Là, pour le coup, je trouve que c'est un système hyper con, mais très bien. J'ai trouvé très bien foutu. Le calibrage est assez bien fait. Ça, c'est vraiment intéressant pour ce côté-là. Après, voilà, l'histoire casse pas les briques, mais voilà, c'est touchant. Tu me diras ce que t'en penses. J'ai hâte d'avoir ton retour de game designer.
Ouais, pour le coup, c'est pas tant l'aspect de l'écriture qui m'intéresse dedans. En fait, c'est vraiment cette idée de. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en parler longuement, mais ce sera pas aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup la notion d'interaction mimétique en fait dans le game design. J'avais dû en parler quand j'ai parlé de Katamari Damacy la dernière fois. Mais cette idée que ce que tu fais avec ton corps et ce que tu produis mécaniquement relève de la même interaction. Et du coup, ce que tu dis sur le clignement d'œil, vraiment ça m'interpelle. J'ai très très envie d'aller voir ce que ça donne. On est d'accord que ça se joue pas avec un eye tracker, ça se joue avec la webcam, c'est ça que tu disais.
Complètement. En fait, ça, t'as un calibrage quand tu commences le jeu, tu te colles à peu près dans un cadre, le jeu te présente un cadre que ta caméra te donne, tu te cales dedans et après il te demande de cligner les yeux plusieurs fois et au bout d'un moment il te dit ok, paramétrage complet, c'est parti, vous pouvez lancer quoi.
Ouais c'est ça, t'as pas besoin d'acheter un Tobi à 90 balles pour jouer quoi.
Non,
c'est
non,
ça
non,
ma question.
Non, j'ai un truc pourri.
Avant que je me précipite sur Steam.
À 15 euros. En fait, ton regard n'est pas suivi. Donc, pour te déplacer ton regard, ça sera à la souris, de manière classique. Mais le reste est géré par le clignement des yeux. Aussi bien l'interaction que le passage du temps.
Ça a l'air trop bien.
Et
merci beaucoup.
Content de t'avoir donné envie. Je t'en prie.
Perso, j'y avais joué. Et je rejoins à peu près ton avis. Mais un peu plus sur du côté de la déception. Je trouve, vraiment, les premières minutes m'avaient beaucoup enchanté. Genre, la mécanique marche très très bien. Et dès le début, en fait, les premières secondes du jeu sont déjà touchantes. Et puis, je trouve qu'au final, le scénar est effectivement, même au-delà de son écriture, un peu, pas gadget, mais il essaye d'être un peu clever alors qu'il aurait juste pu raconter quelque chose, avec la force du truc, il aurait juste pu raconter quelque chose d'assez simple au final. Après, ça reste un jeu d'une heure et demie qui tient très bien ensemble. Et voilà, je te rejoins beaucoup.
Moi, je suis peut-être un peu plus mitigée. Enfin, j'ai bien aimé l'expérience, ça marche bien, ce principe d'éclignement d'œil. Mais par contre, sur la fin, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pour calibrer ma caméra. Alors, je sais pas si c'est ma webcam qui est pourrie, si c'est moi qui ai trop bougé, ou je sais pas, mais j'ai dû enchaîner les calibrations et du coup, ça coupe complètement de l'expérience du jeu. Et je pense que je suis passée à côté du scénario pour ma part. Ça m'a pas du tout. J'étais intriguée au début, mais je pense que j'ai assez décroché et j'étais assez détachée des personnages, mais ça n'enlève que de ma personne. Et ça reste à découvrir pour le principe, parce que j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois un jeu faire ça, et je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui utilisent cette techno-là, donc c'est à découvrir.
Merci beaucoup, Jean. Et on va passer au dernier jeu de l'année, et c'est Lys qui s'y colle. À toi, Lys.
Alors cette année, je peux pas vraiment dire que j'ai eu de jeu de l'année, mais j'ai eu par contre quelques coups de cœur. J'ai d'abord été tentée de vous parler d'It Takes Two qui m'a énormément plu, mais il se trouve que j'ai préféré vous en parler pour sa nomination aux Game Awards. Je voulais aussi un peu parler de Death Door, mais puis finalement je me suis dit que je préférais vous parler d'un autre jeu qui n'est pas du tout, dont j'ai très peu entendu parler, qui est Toem. C'est créé par Something We Made, un studio indépendant suédois. On va ouvrir les yeux dans un monde en noir et blanc. Notre petit personnage est assis sur le lit de sa chambre. En sortant, une femme qui semble visiblement être notre grand-mère nous donne un appareil photo et nous propose de partir à l'aventure pour trouver le Toem et le photographier pour elle. En route alors pour explorer le monde qui nous entoure, forêts, villes, ports et montagnes enneigées. On récoltera des tampons sur notre carnet en aidant les habitants que nous rencontrerons afin de prendre le bus et passer d'une zone à une autre. Toem, c'est un jeu de photographie dans lequel il faudra jouer sur les angles de notre appareil ainsi que ses accessoires pour capturer ses instants de vie en noir et blanc. Capter le charme de ses décors dessinés à la main, ses petites scènes artisanales, ses personnages hauts en couleur, ses petits animaux mignons ou encore ses cubes mystérieux. Toem m'a beaucoup rappelé le jeu A Short Hike, cette aventure où on incarne le jeune oiseau Claire qui doit gravir une montagne pour rappeler sa maman malade. Ici, c'est une autre parente qui nous demande de gravir une montagne pour lui rappeler un souvenir. Il nous faudra aller à la rencontre de différents personnages pour les aider et atteindre le sommet de la montagne pour admirer le Toem, une sorte d'aurore boréale qui irradie le paysage. Un voyage initiatique plein de rencontres surprenantes et amusantes. Court et simple, Toem n'en demeure pas moins une belle aventure dont je n'ai quasiment pas entendu parler autour de moi, et sans avoir la force de Short Hike, il demeure un jeu photo reposant qui m'a amusé et dont je vais garder un très bon souvenir.
Ah, merci pour ta recolise, parce que ta comparaison avec A Short Hike me parle beaucoup, parce que c'est un jeu qui, comme beaucoup de gens, je pense, m'a beaucoup marqué. Donc, ouais, si jamais je peux réitérer une sorte d'expérience similaire, je suis preneur. Donc, c'est cool. Merci beaucoup.
C'est vrai que toi-même, je l'ai vu passer, en festival et j'ai pas encore eu le temps d'y toucher, mais ça avait l'air très cool. Et en plus, je trouve ça vraiment très très cool et intéressant qu'il y ait beaucoup de jeux de photos qui arrivent en ce moment avec plein de prises différentes dessus, que ce soit Toem, que ce soit par exemple Umurangi Génération qui a absolument rien à voir. Et oui, c'est ça, c'est vraiment une mécanique qui est arrivée dans le triple A comme un nouveau truc, un peu, enfin voilà, comme le nouveau gimmick que tout le monde reproduit. Et au final, je trouve que son adaptation dans l'indépendant est toujours vachement intéressante parce qu'elle va lui redonner souvent beaucoup de sens, elle va lui redonner aussi souvent beaucoup de physicalité. Dans le triple A, très souvent, le mode photo, c'est juste une caméra libre que tu peux déplacer comme tu veux dans un certain rayon, etc. Alors que là, très souvent, je me souviens de Murangi Génération, je sais pas si c'est la même chose dans Toem, mais on passe vraiment beaucoup de temps à se déplacer, à essayer de trouver un angle intéressant, parfois à se baisser, à sauter dans des coins, etc. Et je trouvais ça me rappelait beaucoup le fait de faire de la photo en vrai. Et voilà, je trouve ça... Enfin voilà, j'imagine que toi-même, c'est une déclinaison encore différente. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'on arrive à dire avec ça.
Alors, je pense pas qu'il y ait l'aspect aussi technique que, qu'il soit... Enfin, on va pas chercher forcément à faire de belles photos, mais c'est plus chercher des éléments à photographier. Ça va plus être la recherche des éléments plus que vraiment la prise de photo en soi. Je voulais juste rebondir sur le mode photo parce que je pense à la mise à jour d'Animal Crossing qu'il y a eu en novembre qui nous permet en fait de prendre des photos cette fois-ci en mode subjectif et on peut en fait se déplacer avec la caméra dans le jeu en mode subjectif et ça paraît l'air de rien d'être un petit ajout mais j'ai trouvé que ça changeait complètement la perspective du jeu parce que selon comment on plaçait la caméra il y a des éléments de décor qu'on ne pouvait jamais voir avant qui devenaient apparents donc j'ai l'impression que c'est vraiment un aspect de jeu qui est en train d'être comme tu le disais déjà, d'être réapproprié tant par les AAA que par des jeux plus modestes. Et donc, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'il y a des perspectives à venir qui sont assez réjouissantes.
Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'update d'Animal Crossing, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester Matrix Awakens, l'expérience Unreal Engine 5 qui sert de véhicule promotionnel au prochain Matrix, mais il le présente comme une expérience, et je pense que c'est parce que c'est des trouillards, et je pense que c'est un jeu, mais en fait c'est essentiellement un jeu dans lequel on peut se balader avec une caméra dans une ville gigantesque, mais vraiment débilement grande, et on contrôle que la caméra, et on peut s'approcher jusqu'à voir les distributeurs de boissons dans des bureaux, et techniquement, on peut avoir un avatar, on peut se déplacer, on peut prendre des voitures et juste, in fine, pas faire grand-chose. Alors qu'en fait, quand on joue simplement cette caméra qui est complètement libre dans cet univers, ça devient complètement un autre jeu et qui va vraiment dans le sens de vers quoi on pourrait tirer du gameplay expérimental qui met la caméra au centre de l'expérience. Et c'est tout, pardon, c'est ma take tiède, excusez-moi.
On va du coup passer au blind test, mais d'abord la pause musicale avec Frappe Snowland, composé par Kenta Nagata pour Mario Kart 64. Thank you. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris. Et c'est l'heure du blind test. Jean, à toi.
Merci H. Donc comme je l'avais annoncé en début d'épisode, le blind test ce soir sera consacré aux enfers et au diable. Je précise que pour honorer ma réputation de mec qui n'aime pas les jeux japonais, je n'en ai pas intégré un seul. Et je précise également qu'il n'y aura pas de morceau tiré de l'OST d'Hadès parce que ça aurait été beaucoup trop facile. Du coup, on est peut-être sur une sélection un peu difficile pour certains morceaux, mais je fais confiance à vos oreilles d'expertes et d'experts.
Et par contre, Jean, si tu mets pas de jeu japonais, je peux pas jouer. Hein.
Ouais, moi, j'allais dire FF7 et du coup...
Voilà. Bah ouais, moi, je sais pas, j'étais sur un petit Devil May Cry, un truc comme ça, tu vois.
Tout de suite, le premier extrait d'un jeu qui est sorti en 97.
Est-ce que Diablo, mais je sais pas si c'est aussi vieux que ça.
C'est une bonne réponse.
C'est ça.
Oh,
c'est une bonne réponse de la part de H.
GG.
En effet, c'est un morceau tiré de l'OST de Diablo, premier du nom. Un jeu qui nous amène à nous enfoncer dans les catacombes d'une cathédrale jusqu'à atteindre les enfers pour y affronter le seigneur de la terreur, à savoir Diablo lui-même. C'est un morceau qui est intitulé Tristram, c'est la toute première musique qu'on entend au début du jeu, lorsqu'après avoir créé notre personnage, on apparaît dans la petite ville de départ qui s'appelle Tristram. La bande-son du jeu a été développée par Matt Wellman, qui s'est d'ailleurs appuyé sur ce qu'il avait composé pour Diablo 1 lorsqu'il a ensuite composé l'OST du 2, puisque ce morceau Tristram a servi de base au morceau Rogue qui ouvre le premier acte de Diablo 2. La partie de guitare notamment est très très similaire et c'est un morceau, moi j'ai jamais fait le 1, mais le morceau Rogue du 2 me fait toujours frissonner quand je l'entends. Voilà, en tout cas bravo H, un point pour toi. Deuxième morceau, un jeu sorti en 98 sur PC.
C'est Grim Fandango, ouais.
Bien vu, ouais. Genre, je sais pas qui a répondu en premier, si mais c'est Alex ou toi, Alice ou... Après, Thaïs, c'était juste derrière.
Bah, Alex, il a dit le nom, moi j'ai dit je sais, j'ai fait le malin, du coup.
Ah, d'accord. Alice, t'as donné la réponse aussi. Bon, disons que vous êtes partagés, mais en tout cas, voilà, c'est bien Grim Fandango, donc développé par LucasArts. Le morceau s'appelle Swanky Maximino. Donc, Grim Fandango, voilà, qui a besoin de le rappeler, un classique du jeu d'aventure point and click qui se passe dans un monde des morts revisité version Calaveras, jazz et art déco. C'est une vraie Madeleine de Proust pour moi, puisque je l'avais évoqué la saison dernière quand je faisais mes chroniques nostalgiques. Je regardais mon papa y jouer quand j'étais gamin. C'est un titre qui m'a beaucoup marqué par son esthétique et son humour, mais aussi par sa bande-son, qui a été composée par Peter McConnell et que j'ai redécouverte il y a quelques années. Et c'est une des très rares OST que j'écoute régulièrement sans jouer au jeu. En fait, j'écoute très peu d'OST de jeu, mais celle-là beaucoup parce que je trouve que les morceaux de jazz groove à mort et voilà, je me la passe très très souvent. En tout cas, bravo Alex et Lys pour avoir trouvé le jeu. Prochain morceau, un jeu sorti, on fait un petit bond dans le temps, en 2013.
ça me dit quelque chose.
C'est pas un truc genre Bastion ?
Non, c'est pas Bastion.
Ouais, c'est Guacamele, non ?
Bien vu. C'est une bonne réponse de la part de Thaïs.
Incroyable.
Guacamele, donc le jeu développé par Drinkbox Studios, sorti en 2013. Un jeu que j'ai découvert sur le tard, puisque je l'ai fait l'année dernière, et je me souviens l'avoir trouvé très sympathique, agréable à jouer, et gentiment cliché par rapport à la culture d'Amérique centrale, puisqu'on joue un luchador mexicain, on traverse des champs d'agave, des déserts, des temples d'inspiration précolombienne, mais aussi les enfers, vers la fin du jeu, niveau dans lequel on entend donc ce morceau que je vous ai sélectionné. Bravo à toi Thaïs. Pour le prochain jeu, il ne s'agit pas d'un morceau de l'OST, mais d'un extrait sonore du jeu, et le jeu en question est sorti en 2016.
Juste pour être sûr, t'as dit le jeu il est sorti en 2007 ou en 2016?
Est-ce que c'est Doom?
Oui, c'est, en tout cas c'est Ash, tu as trouvé.
Ouais,
en
c'est
effet,
Doom
c'est
2016.
Doom. Ouais, ouais, bah ouais. En même temps,
jeu d'enfer sorti en 2007. C'est pour ça que je demandais la précision, en fait. J'avoue, j'étais à deux doigts de le drop.
Oui. Donc en effet, bravo Ash, c'était bien Doom, le reboot de 2016. Difficile pour moi de faire un blind test sur les enfers vidéoludiques sans placer ce jeu pour lequel j'ai une affection toute particulière. Et il s'agit des toutes premières secondes du jeu lorsqu'on s'éveille et que directement on casse la gueule à des zombies. Pour moi c'est un excellent reboot de la licence. J'ai même tendance à le préférer à Doom Eternal qui est sorti en 2020, surtout pour son ambiance que je trouve largement plus réussie. Et enfin, pour départager tout le monde, ou pas d'ailleurs, parce que je crois que Ash est en tête avec 2 points, ou pour éventuellement égaliser avec Ash, un dernier extrait, cette fois-ci de nouveau un morceau de l'OST d'un jeu sorti en 2017.
Cuphead.
Ouf, et c'est une très bonne réponse de la part de Thaïs qui a snipé ce dernier extrait.
Incroyable.
En effet, c'est bien un morceau de la bande-son de Cuphead, développé par le studio MDHR. Il s'agit du morceau intitulé One Hell of a Time, qui accompagne le combat contre le boss de fin, qui n'est autre que le diable lui-même.
Ouais.
J'ai fait le jeu récemment, après avoir découvert cette musique d'ailleurs, parce que je cherchais des morceaux du coup pour mon blind test. Ça m'a donné envie d'essayer le jeu, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, c'est hyper beau, évidemment. Ensuite, la bande-son est top. Pareil, c'est hyper jazzy, c'est super cool. Et bon, c'est dur, on va pas se le cacher, mais du coup c'est pas non plus trop injuste, ce dont j'avais peur au début parce que j'avais eu plein de mauvais échos, et j'en ai certes bien chié, mais pas jusqu'au point de casser ma manette et d'abandonner.
Moi non plus.
Je trouvais ça plutôt cool. En tout cas, bravo Thaïs pour cette réponse. Il y a même pas eu encore les trompettes qui étaient sorties, je suis très impressionné, bravo.
Mais c'est parce que j'ai pas abandonné effectivement, mais par contre j'ai entendu beaucoup tous les thèmes de boss de Cuphead. Du coup, je suis devenue assez forte pour les reconnaître maintenant.
Si on fait le petit bilan des points, Ash 2 points, Thaïs 2 points, et Alex et Ellie sont un point commun sur...
Grim Fandango.
C'était sur Grim Fandango, exactement. Du coup, ça nous fait une égalité parfaite entre Alex et Ellie, et entre Ash et Thaïs aussi. Donc voilà, c'est l'esprit de Noël, j'imagine.
Quelle équipe.
Pierre, bravo à tous et à toutes.
Merci beaucoup, Jean. Et le mois prochain, ce sera... Lys, que vous retrouverez pour le blind test. Lys, qu'est-ce que t'as choisi comme thème de blind test?
Je vais faire un blind test sur les jeux avec des chiens.
On va avoir plein de suggestions de Can You Pet the Dog. J'attendrai ça.
Attention, Puppy Cross incoming.
Oh, tout de suite, ça dévoile.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up, diffusée sur Radio Campus Paris et produite grâce aux subventions de l'Université Sorbonne Nouvelle. On remercie tous nos chroniqueurs, Alex, Cindy, Thaïs, Jean, Lys, et vous, tous nos auditeurs fidèles chaque mois. Le mois prochain, on reçoit Hugo, qui va nous parler de masculinité dans le jeu vidéo. Et ce mois-ci, on se quitte sur Slipshod Slopes, composé par Minako Amano pour Wario Land Shake It.